Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler cette semaine d'une garde à vue. Une garde à vue où plein d'informations ont fuité. Alors fuité, pas tout à fait, puisqu'en fait la plupart des informations étaient fausses, mais elles ont été reprises. Oui, c'est le problème des sites d'info en continu, ils ont besoin de matière. Et si en plus la matière, concerne une personne qui vient de Palestine et qui est à LFI, oh ben là, je vais te dire, on peut dire tout, voire n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Mais on aurait pu vous parler également de la guerre de leurs profiteurs et de leurs victimes. Depuis plus d'un mois, un fondu du fond de teint qui sert de péter de la rep aux États-Unis a déclenché une guerre avec l'adorateur de la guerre éternelle qui sert de premier ministre aux Israéliens contre l'Iran. Au début, les victimes israéliennes faisaient la une des journaux écrits radio et télé, et un peu plus loin, les victimes iraniennes, oui, comme ça, dans le fond, là-bas. Et là, cette semaine, enfin surtout ce week-end pour les auditeurs du direct, eh bien, c'est un États-Unien qui s'est fait abattre dans son avion qui bombardait donc l'Iran, qui est devenu le héros du jour. Mais les élucubrations du fond de teint servaient à pousser le yo-yo des boursicoteurs vers le haut ou vers le bas. Eh oui, c'est avéré. Il apparaîtrait qu'un certain nombre de dirigeants états-uniens et d'amis s'en sont mis plein les fouilles grâce à ce que nous dit Donald Trump régulièrement. On a gagné, enfin pas tout à fait. On a gagné. Ça fait 3 semaines que c'est comme ça. Eh bien, depuis 3 semaines, la victime la plus importante, en tout cas dans nos médias, à nous, chez nous, parce qu'on est chez nous, c'est-à-dire en fait dans un territoire qui auparavant était occupé par d'autres gens, mais qu'on appelle actuellement la France, eh bien, c'est le pouvoir d'achat. La victime. On a trouvé une petite pépite dans une chronique économico-sociale diffusée le lundi 30 mars sur France Info, la radio d'information en continu du service public. Toute la journée de ce 30 mars, le focus a été mis sur le plastique, dont on apprend qu'il est à base de pétrole. Ah bon ? Et malgré des annonces régulières de tentatives d'en faire avec autre chose, comme des fécules de pommes de terre, eh ben non, ça continue à être fait avec du pétrole. La radio publique donne la parole au lobby du plastique, qui s'appelle Polivia. Sans le présenter comme ça, non, elle dit que c'est un syndicat. Alors, un syndicat, je vous rappelle que le but d'un syndicat a pour but, justement, de défendre ses adhérents. Eh bien là, les adhérents, ce sont des entreprises qui font du plastique. La radio publique donne la parole donc au lobby du plastique à travers sa porte-parole.
Bibiane Barbaza représente Polivia, le syndicat de la plasturgie et des composites.
Lorsqu'on a une crise finalement qui s'étale dans la durée et des hausses qui arrivent par vagues successives, les clients finissent par ne plus suivre les plasturgistes ou les transformateurs de composites et les marges sont encore plus contraintes. Pour nous, il y a un risque en fait de perte de rentabilité sur certaines productions et donc d'arrêt de production parce qu'on ne peut pas produire à perte.
Eh oui, c'est ça qui est important, c'est la perte de rentabilité, parce qu'on peut pas produire à perte, parce que sinon on perd de l'argent. Puis nos actionnaires, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, non, c'est pas possible, parce que moi j'ai pas investi de l'argent pour ne pas en gagner. Eh ben, à aucun moment on ne sait ce que produisent les adhérents de Polivia. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça rend la société meilleure? Ah, par contre, on sait que les marges baissent. Voilà le genre d'informations que l'on a en continu sur France Info, qui est pourtant au service du public. Alors, je vous laisse imaginer sur BFM Business, sur LCI, etc., quand on fait des chroniques économico-sociales. C'est d'ailleurs pour ça, et parce que le plastique fantastique est passé de mode, que le lobby des entreprises qui font du plastique a lancé une campagne de pub fin janvier de cette année, dont le slogan était « Les emballages plastiques, pas systématiques, mais souvent logiques », avec des visuels où on voyait que ce n'était pas du plastique qui était utilisé comme emballage, mais c'était autre chose. Logique, oui, logique, c'est sûr, les emballages plastiques sont logiques dans une optique économique très particulière, celle de la société de consommation, dans laquelle les produits doivent être emballés pour voyager loin et longtemps. Cette semaine, on a pu entendre que des pénuries de laitage étaient à attendre puisque on allait manquer d'emballage pour les mettre dedans. Ah super, décidément cette économie capitaliste basée sur l'égoïsme libéral est bien fragile. Plus de fromage ni de yaourt parce qu'on ne peut plus les emballer à cause de la réduction de 15% de l'arrivage de pétrole depuis 3 semaines. On a vu mieux comme capacité de résilience et comme robustesse. À suivre, une chronique de Sophie Auvigne du service économie et sociale de France Info. De fait c'est surtout économie. Et même économie capitaliste qui ne dit pas son nom. L'inflation du mois de mars est le sujet de ces 2 minutes 30 qu'on va pas vous passer en entier, faut pas déconner non plus. Et elle se base, Sophie Auvigne, sur les chiffres de l'INSEE qui régulièrement fait une petite étude sur l'inflation. Et donc elle constate l'inflation et puis elle fait aussi de la prospective. Moi je préfère quand l'INSEE nous donne des chiffres qui sont basés sur une réalité plutôt que la prospective en économie. Parce qu'il faut savoir ce qui va se passer dans le futur. Ils en rêvent tous ces économistes parce que comme ça ils pourraient jouer à la bourse à la hausse ou à la baisse pour gagner encore plus de pognon. Est-ce que ça serait utile pour la société? Non, pas du tout, mais eux ils seraient les plus riches du cimetière. Ça commence fort. Sophie Auvigne, elle commence par la hausse des carburants. Comment ça, il y a eu une hausse des carburants? On en a entendu parler un petit peu quand même.
Le plus spectaculaire, c'est l'envolée du coût de l'essence. Plus 20% en un mois seulement. Alors ça bouscule l'ensemble des prix de l'énergie, qui augmente de 7% si on compare à la même époque l'an dernier. Dans la foulée, cette progression en entraîne une autre. Le prix du transport aérien, il était en baisse le mois dernier, moins 6% sur un an. Ce mois-ci, c'est l'inverse, les billets d'avion repartent à la hausse, plus 2%, et c'est loin d'être terminé selon l'INSEE qui prévoit encore une forte progression.
C'est loin d'être terminé. Selon l'INSEE, on ne sait pas. Dépendance au pétrole et au carburant, c'est criant. On a appris cette semaine que Total Energy, plafonnant ses prix, avait plus de clients et donc était plus en rupture. 60% des... J'ai lu ça vendredi. 60% des stations où il y a des ruptures en carburant divers et variés, surtout du gasoil, sont des stations Total Energy. Puisque les gens flairent la bonne affaire. Alors, ils la flairent et ils veulent surtout essayer d'en faire parce que c'est dur. C'est dur pour tout le monde. La fin du mois est difficile. Il faut dire qu'il y a quand même une hausse de la pauvreté dans notre beau pays. Depuis le 2017, là, c'est parti en flèche. Pourquoi c'est parti en flèche? On le rappellera jamais assez. Je rappelle quand même qu'à partir de l'été 2017, on a enlevé de l'argent aux pauvres pour la donner aux riches. Quand je dis « on », ce sont les macronistes. Avec la flat tax, une espèce de plafonnement de ce que vous pouviez payer si vous aviez des revenus du capital. Et par contre, on enlève 5 euros d'APL par-ci par-là. 5 euros, c'est pas grand-chose. Non, mais si c'est pour donner à des plus friqués, c'est un petit peu dégueulasse quand même. Ça s'est accumulé petit à petit, cette hausse de la pauvreté. Et il y a de plus en plus de pauvres en France. Le pourcentage rejoint presque celui des États-Unis. On va les rattraper. Mais au fait, pourquoi mettre de l'essence dans son véhicule? C'est pour aller au travail. Afin d'avoir de l'argent pour mettre de l'essence dans son véhicule pour aller au travail afin de... j'arrête. Déjà, l'absurdité de l'organisation économique de nos sociétés saute aux yeux, mais ça devient encore plus surréaliste quand la journaliste pointe du doigt le transport par avion. Un transport qui concerne la moitié de la population française, une fois par an. Mais surtout 2% de la population qui voyage en avion plusieurs fois par mois, si on en croit une étude de l'IFOP pour l'Institut Jean Jaurès qui date de 2022. Ça n'a pas dû changer beaucoup. À suivre dans la chronique, on ne va pas vous le passer, l'inflation de l'alimentation, c'est cool. Le chocolat et le café baissent. On va pouvoir se donner des coups de fouet à peu de frais pour être économiquement efficace et puis booster son magnésium afin d'éviter la dépression. Parce que si on est dépressif, ça ferait de nous des ressources humaines inutilisables. Café, chocolat. Par contre, les œufs, la viande de bœuf, ça monte. Mais il ne faut pas y penser. Tiens, prends un bout de chocolat. Et les services et les biens manufacturés, ça monte ou pas? C'est reparti, on écoute de nouveau Sophie Auvigne.
Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Les prix des produits manufacturés et des services sont calmes. Mais cette stagnation, voire la baisse des prix, ça n'est pas une très bonne nouvelle. D'abord, ça reflète la faible consommation en France. Et aussi, le niveau des salaires qui augmente peu, contrairement à l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie. Mais pour répondre à votre question, l'INSEE prévoit une hausse des tarifs dans les mois qui viennent. Difficile d'être plus précis. Mais on comprend bien que, par exemple, l'industrie de la chimie, du verre ou des emballages, finissent par répercuter les hausses des prix de l'énergie.
Ben oui, on va pas leur en vouloir non plus. Hein. Bon, alors, chimie vert emballage. Sont-ce des industries dont on pourrait limiter les activités ? Eh ben, sans doute. Si la population choisissait démocratiquement les productions, par exemple, prenons la chimie, celle qui est liée au pétrole, hein, notamment, hein, et aussi à l'utilisation de l'énergie. Elle donne justement le plastique dont nous parlions précédemment, mais aussi les gaz nécessaires à la production de tout un tas de produits de beauté, d'hygiène corporelle, d'entretien de la maison. Autant de produits qui possèdent déjà des alternatives à faire soi-même, par exemple, et qui ne comportent pas d'ingrédients justement issus de la pétrochimie. Prenons le verre. La généralisation des consignes limiterait drastiquement la consommation énergétique liée à la reconstitution des contenants en verre que l'on balance dans les bacs de récupération et qui font ce joli petit bruit de verre cassé. Les emballages, tiens, bah dans une économie socialiste basée sur l'autoproduction et le localisme, les millions de tonnes de plastique et carton nécessaires au transport des produits industriels seraient économisés. On en parlait juste avant seulement. Actuellement, l'économie est entre les mains de margoulins qui ont pour but l'accumulation de profits et leur réussite sociale. L'intérêt et la vie de la population, comment on dit déjà, on s'en balèque. D'ailleurs, ça a été dit.
Mais cette stagnation, voire la baisse des prix, eh bien, ça n'est pas une très bonne nouvelle. D'abord, ça reflète la faible consommation en France. Et aussi, le niveau des salaires qui augmente peu, contrairement à l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie.
Ouais, parce que votre avis, on s'en balèque, mais par contre, votre consommation, c'est important. C'est d'ailleurs notre consommation qui compte. Nous sommes simplement ravalés au rang d'agents économiques qui devons consommer. Et pour ça, il faut que les employeurs nous paient plus, pour qu'on dépense plus. Comme ça, les entreprises vendent leurs produits et services. Elles ne font pas faillite et continuent donc de distribuer des salaires qui permettent de consommer. Comme ça, les entreprises vendent leurs produits et services, ne font pas faillite et continuent de distribuer des salaires qui permettent de consommer. Comme ça, les entreprises vendent leurs produits et services et ne font pas faillite. Bon, ok, j'arrête. Ce petit voyage en absurdie, je commence à en avoir marre d'ailleurs, de systématiquement m'apercevoir qu'on est dans un truc qui ne fonctionne pas et qui, en plus, nous amène à croire que nous n'avons que comme intérêt de consommer. Consommer. D'ailleurs, pour les auditeurs du direct, nous sommes samedi et le samedi après-midi, les rues commerçantes sont pleines de gens qui ont pour but de consommer. Et si la guerre continue, que dit l'INSEE qui se prend pour Madame Soleil, la célèbre astrologue du XXe siècle ?
Eh bien, l'INSEE prévoit encore une augmentation régulière des prix de l'énergie jusqu'à l'été et on pourrait frôler les plus 12% sur un an, avec évidemment des conséquences sur le transport aérien quand on sait que le kérosène représente entre 15 et 20% du prix d'un billet. Conséquence de ce retour de l'inflation, le SMIC pourrait être revalorisé plus tôt que prévu dès le mois de juin. Est-ce que ça suffira pour remonter le moral des Français au plus bas aujourd'hui ? On peut en douter. Les Français sont pessimistes quant à leur pouvoir d'achat et même inquiets quand on évoque l'avenir de la France.
Vous avez entendu encore un petit coup sur l'avion, hein, puisque avril, c'est le moment de décider où on va pour ses congés payés, bien mérités, pour dépenser plus que d'habitude hein, en jouant les touristes. La vie, quoi. Les vacances d'été, une activité qui concerne la moitié de la population française, l'autre n'ayant pas les moyens. Eh bien là, on est en train de nous dire, oui, alors l'avion, ça va coûter cher, restez dans le coin. D'ailleurs, il y a eu des reportages divers et variés sur le tourisme local, qu'il est vachement mieux que le tourisme international. Et tout ce beau monde est pessimiste. Eh bien moi, je comprends. Pas de modification substantielle de l'exploitation des ressources humaines à l'horizon et toute la journée dans la plupart des médias des chroniques et analyses qui nous enferment dans un modèle économique qui chavire au moindre blocage de détroit stratégique et nous rabâche toujours les mêmes objectifs. Travaille, consomme et ferme ta gueule. Tiens, on dirait un slogan des Gilets jaunes. On aurait pu vous parler de Pâques. Pâques et sa vague de baptême chez les catholiques. Il apparaît que de plus en plus de jeunes adultes se font baptiser, notamment à l'occasion des fêtes de Pâques, qui, je rappelle, servent à se souvenir de la condamnation à mort et l'exécution du crucifié de naissance, ainsi que sa résurrection. L'Église catholique, qui organise la religion du même nom, annonce que plus de 21 000 personnes seront baptisés durant ce week-end. Ils étaient 3600 en 2021. La Conférence des évêques de France, une instance sexiste de l'Église catholique qui ne comporte que des hommes, fait une petite enquête chaque année disséquant les critères des nouveaux venus. Ainsi, nous savons que 80% des 21 000 du cru 2026 ont moins de 40 ans. Les femmes pour lesquelles les postes à responsabilité sont inatteignables sont 62%. 45% viennent d'une famille déjà chrétienne, catho, protestant, orthodoxe, on ne sait pas. Enfin, un tiers sont des CSP-, c'est-à-dire des ouvriers, des employés, et un quart sont des étudiants. Les articles de la presse catho du moment oublient un élément, l'orientation politique des catéchumènes. Heureusement, l'hebdomadaire La Vie avait fait le boulot. Dans son numéro 4195 de la fin janvier 2026, un dossier est consacré à, je cite, « la grande récupération », surtitré « Identitaire et christianisme ». Un dossier où l'on apprend que la religion est instrumentalisée par des groupes identitaires qui oublient la croyance pour revendiquer principalement l'héritage patrimonial. La France est par exemple appelée la fille aînée de l'Église. Oh ben souvenons-nous-en. Pour les identitaires, l'appartenance au catholicisme est l'une des conditions de sa francité. Alors, ben, tout le monde s'y met. Et pour parler d'événements récents, hein, quelques-uns comme ça. Zemmour, par exemple, publie « La messe n'est pas dite » pour un sursaut judéo-chrétien en 2025. Un livre carrément sur le sujet. En mars 2025, après une visite à Jérusalem pour une conférence contre l'antisémitisme, Marion Maréchal, la petite fille de Jean-Marie et la nièce de Marine, s'épanche sur les réseaux sociaux et elle écrit « L'on ne revient pas indemne de Jérusalem tant l'histoire sur si peu de mètres carrés donne le vertige. Tout au long de ma visite, je me suis senti comme privilégié. Le privilège de me trouver là où s'est produit le plus extraordinaire événement de l'humanité, la venue du Messie. » Et les nations ont aussi leur institut de formation chrétien, Academia Christiana. Le jeune Quentin, honoré par la présidente de l'Assemblée nationale d'une minute de silence, était l'un de ces nouveaux chrétiens, mais aussi un laudateur du nazisme et adepte du racisme. Alors petit message d'alerte, quand vous croisez un nouveau baptisé, adolescent ou adulte, attention, vous avez des chances de croiser un facho. Mais finalement, tiens, ben on a préféré vous parler d'anti-fascisme. La dernière fois, on avait commencé à parler de la manifestation du 14 mars contre le racisme, le fascisme et les violences d'État. Et ça nous a permis de rappeler que les faf et les racistes, ça existe. Et notamment près de chez nous, où quelques représentants de partis ouvertement racistes, comme le Parti pour la France, le RN et Reconquête, se sont présentés aux élections municipales, souvent en cachant leur affiliation militante et en revendiquant la plupart du temps un positionnement divers droite. Regardez, on est sympa. Ouais, c'est les gentils nazis. La plupart des manifestations de ces informations dont nous avons fait part la dernière fois émanaient du CRAM. Souvenez-vous, en 2018 apparaissait le collectif antifasciste de la Sarthe. Durant près de 8 ans, ce collectif s'organise pour lutter contre les tentatives de l'extrême droite d'être toujours plus présente dans l'espace public. Eh ben heureusement, parce que déjà, elle est de plus en plus présente, cette extrême droite. Une émanation du collectif antifasciste de la Sarthe, l'Assemblée Générale Antifasciste, prend rapidement son autonomie, mais est souvent confondue avec son ancêtre illustre. Aussi, finalement, le collectif antifasciste de la Sarthe change de nom et devient le CRAM. Aber was ist das, comme on dit outre-Rhin. Eh bien, je cite le texte de présentation paru sur le site d'information militante locale larnape.info, larnape, L-A-R-N-A-P-E-E. Info. Au début du mois de mars, on pouvait lire ceci sur larnapé.info. Notre collectif fonctionne de manière autonome avec des stratégies et pratiques anarchistes et révolutionnaires en maintenant une spécificité antifasciste. Nous précisons aussi notre zone géographique d'action. C'est pourquoi nous nous nommons le CRAAM, c'est-à-dire Collectif Révolutionnaire Autonome Anarchiste Antifasciste du Mans et des environs. Nous changeons nos moyens de communication, donc vous pouvez les contacter sur le underscore, le tiré du 8, celui qui est en dessous, CRAAM, il y a 3A, C-R-3-A-M-E, @riseup.net, et sur le underscore CRAAM sur Instagram. Pour en savoir plus sur les groupes antifascistes qui agissent près de chez vous, n'hésitez pas à aller voir lahorde.info. Et si vous vous intéressez à lahorde.info, bah écoutez la dernière émission. En haut à droite, vous cliquez sur collectif, lahorde.info. Ah, il y en a plein, heureusement d'ailleurs. Revenons au 14 mars. 200 personnes motivées scandent des slogans dans la rue des Minimes. Mais où vont-ils? Eh bien, il se trouve que le RN, Reconquête, UDR ne sont pas les seuls partis à promouvoir les idées d'extrême droite, à savoir légitimer le tri des êtres humains afin de régénérer la nation en la purgeant de ses éléments étrangers. Ce qui est une définition du fascisme. Justement, au sortir de la rue des Minimes, la manif du 14 mars se dirige... Voilà, bah attendez. Elle se dirige vers la rue Auvray. Slogan au vent. Tutti antifascisti! Eh ouais, il y a un décalage parce que sur les 200, là, il y en a qui ont commencé un tout petit peu plus tôt. Et à un moment, ça finit en canon. Bah, vous auriez dû venir, c'était super sympa. Arrivé devant la permanence du Parti des Républicains, bah oui, Parti des Républicains. Ah bah oui, parce que le Parti Républicain, on y trouve des Ciotti, des Retailleau, des Wauquiez, etc. Oui, tous ces personnages qui flirtent. Non, qui sont carrément d'extrême droite. Les 200 participants stoppent pour une prise de parole, mais la tête de manif enchaîne.
Nous sommes tous des enfants de l'Iran.
Bien sûr, qui veut ?
Alors l'orateur est prêt, hein, il a le micro, du mégaphone devant la bouche, papier à la main, il tente par deux fois d'entamer sa prise de parole, mais...
Réponse,
résistance
à ceux qui veulent opprimer les peuples.
Oui, parce que la tête de manif le voit pas.
Résistance.
Les gens répondent.
Résistance.
Elle a vu, elle est à qui?
Elle est à nous.
Elle a vu, elle est à qui?
Elle est à nous.
À qui?
À nous.
À qui?
À nous.
À qui? À qui? À qui?
À nous, à nous, à nous.
Prise de parole.
Bon, bah finalement, prise de parole, hein. Ça a pu se faire. Pourquoi? Ben parce que à un moment, quelqu'un est allé voir le gars et puis il m'a dit hey, gars, ce serait bien, regarde. Ben, prise de parole, vous aurez tous compris que la cible était la liste Sasso, soutenue par les LR. On a déjà parlé de Retailleau, hein, mais il y a aussi Horizon, dont fait partie Christelle Morançais, qui soutenait la liste Sasso. Il se trouve que Madame Morançais trouve Masque génial. Et puis, il y a Édouard Philippe dans Horizon, qui trouve des vertus à la colonisation, et qui en rajoute une couche fin mars dans l'Express sur sa dérive raciste. Ah oui, parce qu'il a une dérive raciste, forcément, puisque là, il se croit investi par une mission, c'est-à-dire défendre la France contre l'extrême droite pour devenir lui-même président de la République. Et comment défendre la France contre l'extrême droite? Eh bien, reprendre les idées d'extrême droite. Ouais, magnifique. Il y a eu une offensive cette semaine, on peut le dire, une offensive médiatique. On a plein de sondages qui disent celui qui va devenir président de la République, c'est Édouard Philippe. Il est le seul à pouvoir battre l'extrême droite. Grâce à quoi? À des idées d'extrême droite. C'est vachement bien foutu quand même, hein. Heureusement qu'une partie de la population ne lit pas l'Express, par exemple. Eh bien, dans l'Express, on a pu lire une déclaration, je cherchais le mot, d'Édouard Philippe, qui affirmait, je cite, « L'augmentation rapide de nombreux étrangers en France participe à l'embolie de beaucoup de nos services publics. Si les services publics ont un petit problème, c'est de la faute des étrangers. Waouh! Un libéral en économie, aux affaires pendant plusieurs années en tant que Premier ministre, qui a contribué à la diminution des budgets de l'État, qui rend responsable les étrangers de la misère des services publics. Waouh! Comme dirait l'autre, hein, ils osent tout. Ouais, ouais, c'est à ça qu'on les reconnaît. Devant le local des Républicains, l'orateur est un membre de Greenpeace. Il n'était pas tout seul, hein, les autres militants de Greenpeace, chasubles vertes sur le dos, portaient des pancartes dénonçant la collusion de milliardaires avec l'extrême droite. En l'occurrence, on voyait les bobines de Trump, de Bolloré, de Musk et de Pouyanné, le dirigeant de Total. Autant de tristes cires qui font du monde une poubelle et une poudrière, tout simplement pour satisfaire leurs égos. La manifestation avait aussi pour objet de dénoncer les violences d'État, qui sont diverses et variées. Pas le temps de les décrire par le détail ici, mais on peut citer en vrac le mépris de nos soi-disant représentants pour ceux qui ne sont rien. Ah ouais, ça, si c'est pas une violence d'État. La violence contre les demandeurs d'emploi, par exemple. Les violences contre les migrants, etc. Les slogans des manifestants visaient aussi les violences policières. Donc là, on nous parle de victimes, d'accord, Ziad et Bouna, alors oui, qui s'était fait électrocuter dans un transformateur électrique qui avait été d'entrée de jeu, été dénoncé par Nicolas Sarkozy comme des délinquants. Ça laisse toujours des traces, les mensonges laissent toujours des traces. Ah, y a des motivés pour considérer que tous les flics sont des bâtards, hein, puisque ACAB, c'est cet acronyme. La bienveillance de la justice vis-à-vis des meurtres, tabassages et insultes perpétrés par les flics, ça aide aussi à peut-être radicaliser une partie de la population. Ah tiens, sauf quand c'est un jury populaire, comme la condamnation qui a eu lieu à la fin du mois de mars, le 26 mars dernier, hein, par un jury populaire aux assises. Condamnation à 10 ans de prison pour meurtre à l'encontre du policier qui a tué un certain Olivio Gomez en 2020 et qui était jugé par la cour d'assises de Versailles. Mais de là à dire que tous les flics sont des bâtards, il en est qui sauvent l'honneur malgré tout. On apprend par Street Presse, je l'ai loupé, la semaine dernière qu'une fonctionnaire de police affectée à la BAC de Nice a porté plainte en février dernier pour faux en écriture publique, en clair des PV d'intervention bidonnés. Vous savez, ces PV où les policiers racontent tous la même histoire mensongère et qui servent à justifier des tabassages, voire des meurtres policiers. Ah, et ben, des fois, la caméra piéton s'allume et là, on s'aperçoit que tu as menti, mon gars, mais ton collègue aussi. Et parfois, ben, y a des flics qui sauvent un peu l'honneur en dénonçant des faits mensongers. La flic a aussi porté plainte pour violence volontaire sur mineur, violation de domicile par personne dépositaire de l'autorité publique, j'en passe et du pire. Autant d'infractions dont elle a été témoin. Elle a passé un an à la BAC de Nice et elle a bien morflé, il paraît, du fait d'être une beurette au milieu d'un troupeau de masques racistes. Sa carrière dans les forces de l'ordre semble un petit peu compromise. Nouvel arrêt. Devant la mairie, là, pour se souvenir que le maire réélu situé dans la frange anti-NUPES, anti-NFP, anti-antifa du PS n'a pas les faveurs des manifestants. Et la troupe, ce 14 mars 2026, passe devant le palais de justice avant de retourner place de la République pour se disperser. À noter que pendant toute la manifestation, un motard de la police qui fermait la marche talonnait littéralement les derniers du cortège, pourquoi j'ai mis des L ? Les derniers du cortège, au mépris de toute distance de sécurité. Il affichait ses couleurs au guidon d'un engin motorisé. Ouais, a priori, il n'aimait pas les gens qui étaient dans la manif. Eh bien, puisque cet engin motorisé appartient à la collectivité et qu'il affiche ses couleurs à ce moment-là, est-ce qu'on peut taxer ça d'abus de biens sociaux ? On essaiera de trouver un juriste qui nous renseignerait sur le sujet. Et puis, bah tiens, on continue le 21 mars, la semaine d'après, bis repetita, rassemblement contre le racisme et le fascisme à l'occasion de la journée internationale contre les discriminations raciales. 300 personnes de diverses organisations faisant partie du collectif Né ici ou venu d'ailleurs étaient rassemblées place de la préfecture. On pouvait voir des pancartes où il était indiqué très fâché, jamais facho, et de l'autre côté, remplacer le RN par des BN. Il était précisé d'ailleurs goût chocolat. Ou sinon, d'autres panneau Just Love, et un enfant avait aussi un panneau où il était indiqué tous copains, sans doute écrit par lui-même. Prise de parole nombreuse, par exemple pour rappeler la situation politique en France et la course à l'échalote des plus racistes et des plus fachos, aux dépens de la solidarité et de la démocratie. Rappel aussi de la situation dans l'Union Européenne où le PPE, le Parti Populaire Européen de droite libérale, dont sont les Républicains, encore eux, vote régulièrement des textes avec l'extrême droite du groupe Europe des Nations Souveraines, auquel est affilié Conquête, et Sarah Knafo qui a eu l'honneur d'être citée abondamment dans les médias comme si certains avaient un intérêt à ce qu'on la connaisse vraiment pour les élections municipales. Et puis ils sont aussi en lien le PPE avec le groupe des Patriotes pour l'Europe, où siègent les défenseurs de la préférence nationale, hein, qui sont des racistes donc, du RN, et les défenseurs de la préférence nationale qui sont aussi des racistes de l'UDR, de Ciotti. Un représentant de la FSU avait aussi pris la parole pour dénoncer la reconnaissance faciale à l'œuvre sur les téléphones pro des forces de l'ordre. Eh bien, de ça, on en parlera la prochaine fois. Bon, comme on est à la bourre, ben on va se quitter, mais avant, essayez d'aller voir sur sarthe.demosphère.net et larnapé.info pour avoir des petits agendas où vous saurez par exemple que le collectif O72 qui lutte contre les méga-bassines se réunit mardi 7 avril à la Maison des Paysans. Ce sera l'occasion d'aller voir la Maison des Paysans. Allez, que vous dire tout simplement, allez, au revoir.